Voilà, donc dans cette émission Quoi de neuf qui va se terminer à 17h30, eh bien on a une bonne demi-heure consacrée à l'école du Théâtre du Nord, l'école d'art dramatique. Et donc on a toute une équipe, je vais dire les noms, mais ils peuvent se présenter aussi, hein, ça fait partie de la façon de chauffer un petit peu l'ambiance. Alors, je vais dire des prénoms, mais ils peuvent peut-être dire leur nom. Moi, j'ai que les prénoms que j'ai notés, à eux de compléter. Alors, si je dis, par exemple, si je dis Lisandre.
Oui, enchanté.
On complète comment ?
On complète avec Akmès Œillet.
Voilà. Si je dis Maël.
C'est moi.
Donc, comment on dit la suite ?
Lurel. Maël Lurel.
Voilà. Et puis, on pourrait aussi mentionner Jenae.
Oui, Jenae Segond.
Voilà. Et Siméon.
Siméon Poissonnet-Maillé. Bonjour.
Donc, voilà, vous êtes quatre, vous êtes jeune, beau, voilà, et sélectionné surtout pour entrer, il y a déjà une bonne année, dans cette école du Théâtre du Nord, une école qui existe depuis, avec peut-être d'autres noms depuis très longtemps, et qui donc qui s'est bien installée et qui défend en plus ses élèves pour les mettre sur scène et les entourer, les environner pour une carrière professionnelle longue, parfois pour certains d'entre eux déjà. Alors, qui veut prendre la parole sur ce thème, cette école, comment on y accède, qu'est-ce que vous y faites et qu'est-ce que vous préparez?
Cette école, on y accède, comme tu l'as dit, sur concours. Donc il y a un concours d'entrée qui est organisé tous les 3 ans et c'est l'une des spécificités de l'école du Nord. C'est une école nationale supérieure d'art dramatique. Il y en a plusieurs en France. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on est une promo tous les 3 ans. Alors que normalement, c'est une promo tous les ans et nous, on a vraiment le privilège d'être vraiment encadré et seul, d'être 19 pendant 3 ans. On n'est pas que des comédiens et des comédiennes, ici tout le monde est dans le cursus d'interprète, mais il y a aussi 4 étudiants metteuses en scène qui nous accompagnent, Nam, Mathilde, Ella et Prince, qui eux sont formés en scénographie, en écriture, et qui vont bientôt monter des classiques avec nous, donc on a des stages en commun. On travaille des fois conjointement, des fois on se croise pas pendant des mois. Et sur les 15 Trump en colère se noyant dans leur propre merde, notamment, ils nous accompagnent. Et c'est vraiment super.
Alors c'est un titre choc dont on pourra parler après, bien sûr, hein, puisque c'est un spectacle qu'on peut voir et qu'il faut voir. Alors on y reviendra après. Donc cette école, elle a un principe sur 3 ans, c'est ça ?
Oui.
Avec un diplôme à la fin ?
Oui, à la fin, on est diplômé du DNSPC, le Diplôme National Supérieur de Comédien, et on a aussi une licence en art du spectacle, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qui est commun à toutes les écoles nationales supérieures d'art dramatique en France. Nos camarades en mise en scène, eux, ont un master, et nous, on aura une licence, en plus de notre DNSPC.
Bon, donc, pendant votre cursus, vous avez un champ large d'enseignement autour, bien sûr, d'une façon de créer des spectacles, de les jouer, mais aussi de l'environnement, de cet écosystème peut-être. On peut peut-être parler de ce qui vous plaît dans cet écosystème justement. On fait un petit tour.
Ce qui est chouette, c'est que du coup, on fonctionne sous forme de stage. Donc en fait, on est vraiment pendant 3 ans comme une mini-troupe. Donc on est 15 et 20 avec les élèves en mise en scène. Et ce qui est trop chouette, c'est que du coup, on a des intervenants qui viennent. En fait, comme si vraiment on avait un metteur en scène ou une metteuse en scène qui arrive dans notre troupe et qui nous met en scène sur un projet. Donc là, sous forme théâtrale, du coup, mais après, on a aussi des stages de danse, des stages de chant. Donc c'est vraiment une forme hyper intensive où en fait, on enchaîne les stages avec du coup des compétences et des formes hyper variées et différentes.
Donc peut-être je peux te proposer de venir à ce micro-là, si tu veux bien.
Okay.
On t'entendra beaucoup mieux, ouais. Donc effectivement, c'est un univers, le théâtre, qui nécessite beaucoup de, on va dire, de connaissances d'une manière globale pour arriver à situer ce qu'on veut faire comme projet, de bien comprendre où on veut aller. Donc, pour toi, par exemple, on t'a retrouvé au micro, quelle serait ta destination ?
Ma destination ? Après ?
Bah après oui, l'école.
Bien sûr.
Eh bien, en vrai, là, j'aime beaucoup. Ce qui est chouette, c'est que j'aime bien quand on a des mélanges, en fait, qu'on travaille sur des mélanges. Par exemple, en début d'année dernière, on a travaillé avec Armel Roussel, où on a fait plein de formes, plein de petites formes personnelles. Et j'ai trouvé ça hyper riche, parce qu'on voyait vraiment l'univers de chacun, avec les mélanges, et on voyait, en fait, les traces des parcours qu'on avait chacun. Donc certains, je sais pas, de danse, d'écrit, de texte, de chant, de rap. Et du coup, ça, à la fin, on a fait une énorme forme, où on a présenté toutes nos petites formes, donc ça a fait un spectacle, je crois, de 5 heures, si je ne me trompe pas, où en fait, on nous a tous vus passer, et moi j'adore ces formes-là, où en fait, on voit vraiment par où on est passé avant d'arriver à l'école et ce qu'on apporte aujourd'hui. Et ouais, en vrai, j'aime bien ce truc-là de forme hyper complète, hyper riche, de plein de choses, on ne comprend pas trop d'où ça vient, ce que c'est. Donc je pense que moi, finalité, ce ne serait pas le mot, mais en tout cas, j'aime bien aboutir à ces formes-là hyper, hyper complètes et différentes, je dirais.
Donc au bout d'un an et un peu plus, hein, comment vous avez senti votre évolution dans ce parcours ?
C'est hyper intéressant parce que quand on arrive, on a les premiers stages du coup, au sein de l'école. Et toute l'année dernière, on a pu découvrir plein d'univers différents, des metteuses en scène et des metteurs en scène différents aussi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que forcément, on a des attirances premières vers ce qui nous plaît. Et l'école, elle offre la possibilité d'aller découvrir d'autres univers, d'autres méthodes de travail, d'apprentissage. Et j'ai l'impression que là, déjà, rien qu'en début de deuxième année, j'ai la sensation d'être allée découvrir plein de choses nouvelles qui vont compléter ce que j'aimais déjà ou non. Et un peu plus, du coup, savoir quel artiste on a envie de devenir, comment on se déploie là-dedans.
Alors, dans les artistes qui sont devenus déjà, est-ce que vous connaissez des gens de cette formation hein, qui sont maintenant professionnels sur les planches depuis quelques années et qui ont fait impression, on leur trouve tout au moins. Est-ce que quelqu'un se sent inspiré par un des...
Il y a Julien Gosselin, quand même, qui est directeur de l'Odéon, qui a fait l'École du Nord. C'est quand même hyper impressionnant, en vrai.
Ouais. Moi, je l'ai connu tout petit, en plus. Hein.
C'est vrai ?
Bah oui. Donc, je l'ai connu au début, hein, bien sûr.
Moi, je suis nul en nom, je retiens rien. Mais que ce soit déjà, pour prendre l'exemple du Studio 7, qu'on connaît un peu plus parce qu'on les connaît personnellement, et c'est ceux des années d'avant, ils travaillent tous, donc il y a un taux d'emploi après l'école qui est de 100%, ce qui est une statistique assez phénoménale. Donc on a quand même la chance d'avoir une équipe qui se bat pour que cette école ne soit pas seulement une école, mais qu'elle soit vraiment un dispositif d'insertion, ce qui fait qu'on a une espèce de filet de secours. Et j'ajouterais que même 3 ans après l'école, parce qu'en fait, quand on est à l'école pendant 3 ans, on y est attaché en fait pendant 6 ans. 3 ans après, on a un fonds de soutien qui est alloué aux élèves de l'École du Nord. C'est-à-dire qu'une compagnie qui veut nous embaucher peut déposer un dossier, une candidature, ce qui permettrait d'avoir une aide pour nos salaires à nous. Donc j'en profite pour le dire aux compagnies de la région qui pourraient m'écouter.
Tout à fait. Donc voilà, donc votre, on va dire, c'est pas un business plan, on va pas dire ça comme ça, hein, mais c'est quand même une carrière dans laquelle vous vous lancez dès à présent, et c'est pas de tourpeau ?
C'est pas de tourpeau, c'est une formation qui est conséquente, qui prend du temps, de l'énergie, et qui est très très enrichissante. Dans le sens où on travaille qu'avec des artistes qui sont en activité. Donc les rencontres qu'on fait avec les intervenants qu'on a, c'est des rencontres qui peuvent se tisser sur la durée et qui peuvent devenir par la suite des vraies opportunités professionnelles et des contrats d'engagement. C'est aussi là où l'école marque une différence avec d'autres qui ont un modèle plus différent. Nous, on n'a pas de cours très réguliers de jeu, par exemple. Sur toute la partie jeu, on a des intervenants différents qui s'enchaînent et qu'on rencontre. Et donc, ça permet d'ouvrir, nous, nos horizons. Il y en a qu'on adore, il y en a qui nous touchent moins, mais ça nous permet de vraiment constituer une boîte à outils très large et la plus variée possible.
Donc on peut quand même dire que vous êtes dans ce milieu des élèves hein, formés à l'art dramatique, un peu des privilégiés, on peut dire ça ?
Totalement, ouais, complètement. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui candidatent pour intégrer l'école. Il y a très peu de place pour beaucoup, beaucoup de candidats et candidates. Donc, c'est un grand privilège d'être dans ce réseau, d'être attaché à un théâtre en activité, qui est le Théâtre du Nord. On a accès à toute la programmation, on rencontre les artistes qui viennent s'y produire. On est accompagné par les équipes et on est quand même... dans la machine du théâtre public qui nous facilite évidemment à plein d'endroits.
Donc quand vous avez votre personnalité déjà, j'imagine un peu, est-ce que vous pensez justement vous construire un personnage qui va avoir une personnalité particulière ou vous adapter à plein de rôles différents? Comment vous voyez ça? La polyvalence ou la spécialisation avec une vraie identité?
Moi, j'ai l'impression que, justement, c'est intéressant de... Vu qu'on est dans une formation, on a plein de stages différents, d'avoir la chance de pouvoir aller jouer plein de choses différentes, des choses que peut-être on ne nous demandera pas à la sortie... dans le milieu professionnel, de se dire « Ah bah tiens, j'y avais pas pensé, mais là on me donne la possibilité d'aller me frotter à un rôle et je vais y aller. » Et je pense que des fois, il y a forcément des rôles où on a l'impression que c'est plus proche de nous. Et des fois, justement, on va aller à l'opposé peut-être de ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans. Mais je pense qu'il y a toujours un endroit, une partie de nous, même quand le rôle, il a l'air aux antipodes.
Donc là, vous avez, je ne sais pas si on peut dire un ennemi commun, enfin en tout cas quelqu'un qui vous préoccupe, c'est Trump, c'est ça? J'ai compris ça, non?
Trump, c'est né du stage qu'on a eu avec Marlène Saldana et Jonathan Drillet, qui sont venus avec un projet qui était de partir de la pièce d'Original Rose, 12 hommes en colère, et de partir de la citation d'un des conseillers de Donald Trump qui, parlant de la façon de communiquer avec les médias, disait que la stratégie était d'inonder la zone de merde. Et donc ça a donné dès le début la fusion entre ces deux univers qui a donné par la suite 15 Trump en colère se noyant dans leur propre merde.
Donc quand vous observez cette personne de Trump, hein, c'est un personnage en même temps, on ne peut pas dire... qu'il laisse indifférent. Enfin, je veux dire, il a quand même des caractéristiques propres et j'imagine qu'il est proche de la comédie d'une certaine manière. Ça vous touche, ça?
Totalement. Je trouve que, enfin, en tout cas, dans le travail, il y avait à retrouver le grotesque de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire, de comme il peut apparaître aux yeux des Américains, aux yeux du monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bon, cette pièce, elle a quand même vocation à faire rire à plein d'endroits, même si pas que. C'est que en fait, parfois, il y a juste à dire ce que Trump a dit. Mmh. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus, tellement c'est aberrant, quoi. Donc on vit dans ce monde et j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu de se réapproprier le monstre, quoi.
Donc, la comédie, visiblement... ça peut mener à la politique. Je pense aussi à Zelensky, hein, d'une certaine manière, qui est comédien d'une certaine manière. Comment vous voyez le personnage? Je parle du personnage, hein, pas de l'homme politique, de Zelensky. Pour vous, est-ce que vous l'avez déjà vu agir sur scène, être est-ce que vous voyez après, justement, entre ces deux personnes, le passage à la carrière politique? Comment vous ressentez? Est-ce que vous auriez envie, pourquoi pas aussi, de faire une carrière politique, hein? Je ne sais pas.
Bah, moi, je trouve que c'est une question intéressante parce que on se pose la question de ce que raconte ce qu'on fait, encore plus quand on est sur un plateau, quand on travaille dans des métiers qui sont les métiers de la représentation, de l'image. Donc, je pense qu'à un endroit, faire du théâtre aujourd'hui, ça doit aussi vouloir dire faire de la politique. Et il y a une nécessité à raconter un monde et à être critique envers celui-ci, à essayer de faire changer les choses assez humblement. Donc je pense que de toute façon, chaque projet artistique doit être nourri d'un projet politique et d'une réflexion, en tout cas, sur ce qu'on raconte et pourquoi on le raconte, dans quel monde on le raconte, à quelle époque on le raconte. Enfin, moi, c'est très personnel, hein, c'est la vision que j'en ai, en tout cas.
Quelqu'un d'autre a une vision?
Je suis très d'accord avec Siméon. C'est-à-dire que nous étudiants qui sommes privilégiés d'être dans cette école, on nous donne l'opportunité de nous emparer de cette matière qui est absolument brûlante et qui nous touche tout particulièrement, parce que dans notre promo, il y a des personnes queer, des personnes racisées, et de s'emparer des propos de Donald Trump, des propos de l'extrême droite qui sont absolument terrifiants et dangereux, et les mettre dans nos bouches, ça a un sens qui nous dépasse un peu malgré nous. Et c'est important qu'on ait conscience de ça. Et la parole qu'on porte, on ne le fait pas de façon, innocente ou inconsciente. Et...
Donc, c'est vrai que la programmation du Théâtre du Nord, depuis que son directeur actuel est là, elle s'est beaucoup inspirée de la société, elle reflète beaucoup des problématiques, aussi de des préoccupations d'une certaine jeunesse, non ?
Oui, totalement. David Bobet, dans sa programmation... Je pense qu'il est question de ne plus invisibiliser beaucoup de vécu, parce que notre société, nous-mêmes, dans l'école, on est un reflet de ce que souhaite représenter David Bobet au plateau. Et un théâtre, c'est essentiel comme lieu. C'est un lieu de partage, un lieu d'écoute, un lieu de récit. Et on doit réinventer nos récits, on doit représenter les personnes qui ont été invisibilisées dans l'histoire, que ce soit les femmes, les personnes racisées, les personnes queer. Et c'est absolument essentiel comme travail, et ça doit continuer, et c'est ce qui nous meut aussi, étudiants et étudiantes à l'École du Nord.
Alors, je vais vous laisser 2 minutes pour réfléchir, et vous allez me dire, dans la programmation actuelle de cette année, du Théâtre du Nord, quelles seraient les pièces qui vous inspireraient le plus, les spectacles qui vous sentent essentiels pour vous? Si vous n'en reteniez qu'un, ce serait lequel? On attend un petit peu que ça vienne à l'esprit et puis on en parle dans quelques instants. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, émission Quoi de Neuf. Donc la saison du Théâtre du Nord, elle a démarré en octobre, et voilà, il y a déjà plusieurs spectacles qui ont été présentés ou qui sont en présentation actuellement, et puis plein d'autres à venir. Alors, si on fait un petit tour de table de vous, pas forcément ce que vous conseilleriez, mais qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette programmation, s'il fallait retenir un spectacle? On fait un petit tour de table?
Moi, je sais que je suis très curieux du travail de Mohamed El-Khatib, qui vient avec un spectacle qui, je crois, s'appelle la vraie vie, la vie secrète des vieux, il me semble. Moi, j'ai entendu parler de son travail parce qu'il fait du théâtre documentaire. Il travaille avec des gens qui sont pas forcément comédiens, comédiennes. Et j'ai l'impression qu'il a un théâtre qui donne la parole à des gens qu'on entend peu sur les plateaux. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je suis assez intrigué par cette vie secrète des vieux.
Moi, pour ma part, c'est un spectacle que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est passé il n'y a pas longtemps dans la grande salle du Théâtre du Nord. C'est Monarque d'Emmanuel Mérieux. Et c'est la première fois que je voyais raconter au plateau le parcours d'une personne qui est en migration et qui fuit son pays. Et moi, ça a beaucoup résonné pour moi parce que mon papa est réfugié politique. Et c'est la première fois que je voyais... une histoire racontée comme ça au plateau, et je crois que ça m'a un peu bouleversé de pouvoir être témoin de ça aujourd'hui.
Moi, c'était un spectacle que j'ai découvert l'année dernière au Théâtre du Nord et qui m'a beaucoup plu. C'était le spectacle Piste de Penda Diouf. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait, cette histoire... qui était raconté, qui parlait de la Namibie. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, questionner et donner envie.
Alors moi, c'est un spectacle qu'on n'a pas vu encore, qui est programmé bientôt. C'est Citadelle, donc de Simon Capel, qui parle donc des noyés de la Deule, qui apparemment est un grand mystère. Donc moi, j'en ai vraiment entendu parler comme ça, ci et là, mais je suis très curieux de le voir sous une forme théâtrale. Je connais pas du tout cette affaire, en fait. Mm-hmm. Donc ouais, du coup, à voir au Théâtre du Nord. Et là, j'ai les dates sous les yeux. Donc c'est en décembre, donc là ça arrive bientôt, à partir du 9 mardi 9 décembre, voilà. Voilà, Théâtre du Nord dans la grande salle.
J'aurai le plaisir de les accueillir en décembre dans cette émission. Hein, ce duo que je connais depuis longtemps aussi autour de la danse, par exemple, et de la théâtralisation. Hein, c'est vraiment des gens qui m'inspirent beaucoup et qui viennent souvent. Simon, il vient quand il veut ici, il le sait d'ailleurs. Voilà, donc on a compris que le public du Théâtre du Nord est divers et que vous reflétez peut-être en partie aussi cette diversité. Comment, justement, cette diversité que vous êtes déjà à quatre ici, elle est encore davantage présente sur l'ensemble de la promotion. Est-ce que vous sentez qu'ensemble, vous représentez plus ou moins le monde entier?
Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on représente le monde entier? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que dans le projet de l'école, de David, et j'espère dans le projet de cette nouvelle génération de metteurs, metteuses en scène, il y a la volonté de quitter un théâtre un peu vieillot, de dépoussiérer un peu les vieux rideaux et de montrer, de raconter des récits, d'en écrire aussi, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qu'on entend encore trop peu. Et j'ai l'impression que c'est en ça que la diversité est d'une importance primordiale, parce que, évidemment, que si pendant longtemps, il n'y a eu que des vieux blancs dans les salles de théâtre, qui payaient des billets très chers, ben c'est parce qu'aussi, sur le plateau, il y avait des vieux blancs. Donc je pense qu'il y a, c'est normal de faire évoluer les récits.
Donc on parlait aussi de cette diversité, que le monde est présent dans la région, il y a énormément de gens d'origine diverse, hein, et donc ça se retrouve dans un théâtre, ce qui est quand même la moindre des choses, que cette diversité soit présente, non seulement représentée, mais agisse aussi sur scène, par exemple.
Oui, parce que le théâtre est un service public. Et que nous, étudiants et étudiantes, on se doit d'intégrer le monde à nos récits. Et c'est absolument injuste que pendant des années, beaucoup de personnes n'aient pas été représentées. Et évidemment que dans la France entière, il faut que chaque personne qui aille au théâtre ait le droit de ne pas se sentir exclue, de ne pas se sentir invisible. Parce que notre travail, c'est de faire réfléchir, de faire penser, de faire rêver. Et si on fait rêver qu'une toute petite poignée d'individus privilégiés, ça sert strictement à rien.
Alors justement, il y a cette différence que chacun de vous peut avoir, mais aussi cette vie collective, puisqu'on est sur la Terre ensemble, qu'il faut réussir à maintenir dans les meilleures conditions.
On se pose beaucoup la question de... Enfin, moi, je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on réinvente le théâtre, parce que c'est vrai qu'on voit, en fait, effectivement, souvent les mêmes schémas et les mêmes personnes dans le public et même dans les spectacles qu'on voit. Et ça pose beaucoup la question de comment on fera du théâtre demain. Est-ce que, en fait, il faut descendre dans la rue pour faire du théâtre? Parce que ça part vraiment, à la base, c'est vraiment un acte politique, autant d'aller voir du théâtre que d'en faire. Et du coup, il y a ce truc-là de comment est-ce que ça devient une vraie parole des gens et comment est-ce que les gens sentent que cette parole qui est théâtrale, de texte ou de jeunes comédiens qui montent sur un plateau, comment est-ce que pour eux ça devient nécessaire et comment est-ce que eux ça crée des questionnements. Et du coup, c'est vrai que le théâtre, parfois, enfin moi, me semble peut-être un peu fermé dans une salle comme ça, et de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment amener les gens, dire des choses dans la rue et faire des soulèvements avec le théâtre.
Alors aujourd'hui, le théâtre est à la radio et je vous ai confié quelque chose. Je ne sais pas ce qui va en sortir. En tout cas, vous avez quelques minutes, pas pour convaincre, mais pour exister au travers de vos micros. Je vous laisse, quand vous le souhaitez, vous levez la main si vous êtes prêt et puis vous pouvez y aller.
On va vous présenter un petit melting pot d'extraits du spectacle 15 Trump en colère se noyant dans leur propre merde, que vous pourrez retrouver dans la petite salle du Théâtre du Nord le 22 novembre à 16h, le 21-22 janvier à 18h et le 2 et 3 avril à 18h aussi, pour les dernières dates de cette tournée qui peut-être vivra encore plus longtemps.
Yeah, guys. How are you guys? How are you doing, guys?
I'm doing great, and you?
Yes.
Je comprends pas.
Je comprends pas, j'ai pas pu garer mon jet là devant la radio.
Oui,
je comprends pas.
C'est vrai que c'était tout gris, ce parking n'est pas hyper adapté, oui, c'est vrai.
Ouais, tout gris, tout triste. Franchement, ça respire pas l'argent ici.
Oui, non, c'est vrai, non, ça respire la bite, si je peux me permettre.
Pourquoi tu dis ça?
Bah, je sais pas, je crois que c'est une radio étudiante, non?
Ah, c'est un repère de gauchos.
Oui,
en fait.
Je crois bien.
C'est
oui.
Que des gauchos.
C'est pas
que
vrai.
Que des gauchos qui vont dans tous les sens. Mais putain, mais les gars, attendez, j'ai une petite question à vous poser là.
Ouais, dis-nous.
Pourquoi ces micros, ils sont tout noirs? Pourquoi ils sont tout noirs ces micros là?
Je comprends pas, ça devrait être jaune.
Ouais.
Jaune ou rouge?
Ouais.
Non, pareil là, ces petites fenêtres là, pourquoi c'est pas rouge?
Ouais.
Et rouge et blanc.
Et rouge et blanc et doré.
Mais ça fait,
et
pas,
doré.
Ça fait pas un peu communiste ou savoyard ça, rouge et blanc?
C'est quoi ça la savoyardie? Je connais pas.
Je sais pas, je connais pas trop non plus, mais vous savez quoi les gars, moi je pense qu'il devrait y avoir que deux couleurs autorisées dans les médias. Hein. Il devrait y avoir le blanc. Et le orange.
Yeah, you're orange right. People, orange yeah. People, yeah.
Yes.
Orange is the new black.
What?
Yeah. Oh no. Orange is the new white.
So guys, are you ready to make radio great again?
Yes, we are. Yeah.
Nous sommes en 1957 dans la salle de délibération du jury d'un tribunal de New York. C'est une vaste pièce sinistre qui aurait bien besoin d'un bon coup de peinture. À travers les trois fenêtres du fond, on aperçoit les sommets des gratte-ciel. Le tribunal en a terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est aux jurés de réfléchir. 12 hommes, 12 jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Quelle que soit leur décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si les jurés déclarent l'accusé coupable, alors la cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort, ils sont donc chargés d'une grande responsabilité. Durant toute la durée des délibérations, les jurés auront accès à des toilettes, afin de par exemple faire pipi ou même caca.
Oui, excusez-moi, ce gosse a la gueule de l'emploi quand même.
Yeah.
Mais il n'y a qu'à voir son casier judiciaire. Première inculpation à 10 ans pour avoir jeté des cailloux sur la maîtresse.
Oui, c'est vrai, oui.
À 14 ans, il se retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole.
Oui.
Et puis après ça, on l'arrête pour un vol à la tire et puis pour agression à l'arme blanche
à
contre un autre gamin.
Le 11 septembre,
et
ouais.
Deux fois de suite. C'est pas compliqué, hein. Cette gosse est un as du couteau.
Excusez-moi. Excusez-moi, mais voyons, mais. Enfin, mais ne soyez pas victime de vos préjugés.
Mais qu'est-ce qu'il y a
donc Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes victime de vos préjugés. Vous avez des préjugés de classe, vous avez des préjugés religieux, politiques, moraux. Mais ne croyez pas que la société soit intangible, que les inégalités, les injustices, les violences sont inévitables. Ce que je veux dire, c'est que notre raison et notre volonté à nous d'être ici, pour vous, ne peut rien changer à ça.
Ben non.
Mais voyons, mais enfin, mais messieurs, mais ne croyez pas que ce garçon est coupable d'être ce qu'il est. Mais enfin, mais ça ne dépend pas que de lui d'être autrement. Ce que je veux dire, c'est que vous, monsieur, eh bien, vous êtes instruit.
Bah oui.
Eh bien, ne méprisez pas l'illettré. Nous qui ne travaillons pas de nos mains ici, soyons indulgents envers les autres hommes. N'ajoutons pas à leurs souffrances. Ne soyons pas de ceux qui augmentent la somme des souffrances. Ce que j'essaie de vous expliquer, messieurs, dans ce tribunal, c'est que pour maintenir la balance entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas le même poids, eh bien, il faut faire pencher la balance un peu de l'autre côté. Alors, ayons un préjugé favorable, s'il vous plaît, messieurs. Ayons un préjugé favorable pour le garçon contre le père. Ça pourrait être pour la femme contre le mari, pour l'ouvrier contre le patron, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le plaideur contre la justice, pour le coupable contre...
Can you stop that right now?
Thank you.
I don't understand you people. How can you believe this kid is innocent? Look, you know how those people lie. I don't have to tell you.
Yeah.
They don't know what the truth is.
That's right.
And look, these people are drinking and fighting all the time. And if somebody gets killed, so somebody gets killed.
Thank you.
You know, they get drunk and bang, someone's lying in the gutter.
Mm.
But nobody's blaming them. That's how they are. You know what I mean?
Yeah.
Violent.
Oh, yeah.
Human life don't mean as much to them as it does to us.
That's right.
And oh, sure, there are some good things about them too. Look, I am the first to say that. But that's the exception. Most of them, it's like they have no feelings. So listen to me. We have to make America great again.
Yeah, good
make
idea.
Our country great again.
Yes, that's
make
right.
the nation great again.
Yeah.
Make politics great again.
Yes.
Make the justice system great again.
That's right.
Make death penalty great again.
Oh, yeah.
Make lethal injections yeah. and inhalations great
that's
again.
A good thing.
Make prison great again.
Yes.
Make racism great again.
Yeah.
Make
yeah.
rape great again. Make unwanted pregnancy great again.
Yes,
make stillborn babies great again. Make violence great again. Make beheaded women great again.
Yes.
Make love great again.
Yes.
Family great again. Homosexuality illegal again.
Yes.
Make sodomy punished again.
Oh, yeah.
Immigration illegal again. Make Native Americans sterilized again. Transsexuals dead again.
That's
sadness
right.
great again. Madness great again. Make
yeah.
grief great again.
That's
make
right.
misery great again. And misogyny
oh,
great
yeah.
again. Make the church great again. Make God great again. Make
yes.
me
yes.
great again.
Yes.
Make
yes.
humanity die again.
Again. Yes, that's
yeah.
a good thing.
Yeah.
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 Yeah. You're right.
Thank you.
You're absolutely right, guys. I think we did make radio great again, don't you think?
I think we did, yeah.
Bon, et eh bien voilà, un sacré moment de radio et de théâtre en même temps. Hein. Est-ce que pour vous, le fait de venir dans une radio, cela peut vous inspirer aussi au niveau d'un travail théâtral, par exemple?
Bah oui, carrément. Ah bah là, c'est vrai que c'était chouette parce qu'on se regarde, en même temps, on peut faire des gestes. Il y a un côté un peu off qui est assez intéressant. Et même le travail avec la voix, du coup, c'est vrai que dans les trumps, on a plein de moments où on a des petits trumps qui font des petits yeah, typiquement. Et là, c'est vrai qu'on pouvait se les caler un peu. C'est ouais, en vrai, c'est assez intéressant. Ouais.
Et même aussi, ce qui était assez intéressant, c'est qu'au début du projet, on a beaucoup travaillé, en fait, à partir de radio.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on était tous installés et des petits groupes se faisaient et on faisait des radios pour essayer de trouver de la matière qui, justement, est dans le spectacle. Donc, c'est assez...
J'ajoute c'est qu'il y a d'ailleurs même une radio, un moment de radio dans le spectacle,
ouais.
mais j'en dirai pas plus pour pas trop spoiler les spectateurs futurs qui, j'en suis sûr, seront nombreux à venir nous voir. Et pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est une matière très intéressante parce que ça permet de se concentrer un peu sur ce qui est dit et donc ça nous force, nous, en tant qu'interprètes, à chercher, en tout cas quand on est en impro, à chercher des conneries, chercher des blagues, ouais. ou chercher des trucs même plus intéressants, plus poétiques parfois. Et c'est un exercice qui est très 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 riche dans le travail d'écriture de plateau, qui est le travail qu'on a fait avec Marlène Saldana et Jonathan Drillet.
Ouais, et c'est super intéressant de sentir à quel point au plateau nos corps sont exposés en même temps que nos voix, alors que là il y a un peu ce truc secret et je trouve très agréable de... En fait on peut vraiment se regarder, on peut communiquer et le plus important c'est ce qu'on dit. Et nos corps sont vraiment pas du tout au repos, mais vraiment au service de ce qu'on fait passer dans la voix, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil comme travail.
Est-ce que la radio, d'une certaine manière, ça peut apporter, pour certains spectacles, pour certaines pièces, une forme de liberté ?
Je crois que oui, ça nous a apporté une liberté dans 15 Trump en colère, parce qu'il y a une sorte de petits groupes qui est hors de la pièce qui se joue, donc de 12 hommes en colère, et qui fait une sorte de pont assez étrange entre ce qui se passe au plateau et les spectateurices. Et oui, ça offre une liberté parce que, évidemment, d'avoir cette frontière scène-salle qui est un peu abolie par cette petite radio qui a lieu tout au long du spectacle, c'est quelque chose d'intéressant et de troublant pour nous qui sommes au plateau. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes en action et qui sommes en train de parler.
Donc j'avais fait la proposition au Théâtre du Nord, enfin à l'équipe du Théâtre du Nord, que vous puissiez, enfin l'ensemble de la promo, venir, hein,
mm-hmm.
pour ceux qui le souhaitaient. Qu'est-ce qui vous a convaincu à venir ?
Je pense qu'il nous a convaincu, c'est que en fait c'est une chance de pouvoir en deuxième année
parler du spectacle dans lequel on joue et de ce qu'on défend dans ce spectacle. C'est une opportunité qui est super chouette. Et je trouve que c'est un médium hyper intéressant, la radio. Enfin, j'avais jamais parlé à la radio et c'est... Je trouve que c'est essentiel aussi qu'en tant qu'étudiant, on se familiarise avec cette autre partie de notre métier qui est de parler de ce qu'on fait, de raconter les spectacles et d'être ensemble et pas faire de la communication, mais de vraiment partager ce sur quoi on travaille, c'est important.
Donc, il y a une enquête qui est parue il n'y a pas longtemps, enfin, il y a des sondages aussi qui montrent que la radio en tant que radio traditionnelle a perdu beaucoup d'auditeurs. Est-ce que, pour vous, c'est... lié évidemment à de nouvelles formes d'utilisation de la parole ou de la musique ou de l'expression, puisque maintenant on a quand même des technologies très différentes et puis des façons d'écouter, d'entendre les podcasts, etc., la radio. Et est-ce que vous ressentez éventuellement pour la radio qui subsiste en tant que média traditionnel un potentiel qui pourrait être mieux utilisé, réexploité au travers notamment du théâtre?
Bah, y a eu, je crois qu'il y a eu quand même longtemps une tradition de la fiction radiophonique, que ce soit en Angleterre ou en France aussi, quelque chose qu'on perd un peu aujourd'hui, alors que c'est un média qui est hyper intéressant, qui permet de faire rêver, de avec très peu de choses, juste une voix, un micro, des comédiens, éventuellement des accessoires pour faire des bruitages. Ça permet de faire exister des mondes qui n'existent pas et qui maintenant se transforment peut-être aussi parce que les médias évoluent et qui se transforment dans des podcasts qu'on écoute plutôt sur les plateformes de streaming. Nous, par exemple, à Avignon, l'année dernière, on a eu l'occasion d'aborder un travail qui mêlait et le théâtre et la radio. On a été accompagné par RFI et Armel Roussel pour participer aux lectures RFI, qui sont une flopée de textes triés sur le volet, qui sont des textes francophones hors métropole, et afin de mettre à l'honneur des auteurs et des autrices de théâtre, et donc on a eu l'occasion de faire des lectures publiques qui étaient rediffusées également sur la radio des RFI.
Alors on va appeler le spectacle dans lequel on pourra vous voir très prochainement. Je vous écoute sur la date, etc.
Vous pourrez nous retrouver, le 22 novembre, le 21 et 22 janvier et le 2 et 3 avril au Théâtre du Nord dans la petite salle pour découvrir 15 Trump en colère se noyant dans leur propre merde, un spectacle de Marlène Saldana, Jonathan Drillet et du Studio 8 de l'École du Nord.
Merci beaucoup d'être venu et bravo pour cette présentation globale, on va dire, de ce que vous commencez à savoir faire et qui va vous emmener dans une vie passionnante.